impressionné par la qualité et le nombre des personnes qui sont réunies ce soir pour ouvrir ce forum de la solidarité. J'étais déjà venue à Mulhouse, ça n'est pas la première fois que je suis invitée. Je remercie les organisateurs et organisatrices pour d'autres manifestations qui étaient aussi sur un mode de débat et de conférence. Donc on continue avec cette soirée. Donc je vais essayer de reprendre un petit peu quelques éléments d'une part d'actualité en essayant de les situer dans un contexte plus large tout d'abord. Et puis après je vais essayer de voir si on assiste ou pas à un tournant et quelles pourraient être les solutions, les initiatives, les mobilisations qui pourraient faire avancer la situation actuelle. Alors tout d'abord, réfugiés, on en a depuis longtemps, puisque non seulement tous les pays européens sont signataires de la Convention de Genève sur l'asile, et même pour faire partie de l'Union européenne, il est obligatoire d'être signataire de la Convention de Genève. Donc les 28 États européens sont signataires de la Convention de Genève de l'asile de 1951. À l'échelle mondiale, il n'y a que 50 pays qui ne soient pas membres, qui ne soient pas signataire de la Convention de Genève, donc c'est une convention, un traité qui est largement signé, sauf par un certain nombre de pays, souvent du Sud, mais qui parfois accueillent de fait un certain nombre de demandeurs d'asile. Il ne faut pas oublier que le Sud, aujourd'hui, accueille les trois quarts des ce qu'on appelle des migrants forcés, donc pour l'essentiel des demandeurs d'asile, même s'ils ne leur donnent pas le statut de réfugiés. Pour ceux qui leur donnent le statut de réfugié, l'Europe est une grande destination devant les États-Unis, le Canada, l'Australie. L'année dernière, l'Union européenne a reçu 625 000 demandes d'asile. C'était un chiffre jamais vu depuis 25 ans, puisque les années précédentes, on était autour de 200-220 000 demandeurs d'asile. Donc ce qui est nouveau, c'est déjà l'ampleur du phénomène. Deuxième élément important, l'Europe aujourd'hui, l'Union européenne, est cernée de conflits. Alors après, c'est un autre débat, mais on peut en parler dans les questions, quelle est la responsabilité ou pas de tel ou tel pays européen ou de l'Union en tant que telle dans certains conflits, mais enfin, toujours est-il que la réalité, c'est celle-ci. On a toute une série de pays à nos portes qui sont dans une situation de chaos. Je citerai d'abord la Syrie, bien sûr. 6 millions de personnes ont quitté leur domicile, dont 4 millions sont à l'étranger. Donc 4 millions de Syriens ont quitté leur pays à l'heure actuelle. On a la poursuite, j'en parlais hier avec une collègue qui fait beaucoup de terrain en Afghanistan, on a la poursuite, mais vous devez le constater, gens qui viennent encore aujourd'hui d'Afghanistan parce que ceux qui sont retournés n'ont pas trouvé les possibilités de se réinsérer, donc repartent. Donc 6 millions de personnes aussi ont quitté l'Afghanistan depuis la fin des années 70, le début de l'invasion soviétique. Donc là aussi, on est dans des records, comme les 6 millions de Palestiniens qui ont quitté leur pays depuis 1948. Donc là, on a trois records, si j'ose dire, l'un d'entre eux, les Syriens, est particulièrement actuel. Mais on a aussi l'Irak, on a la Libye qui est un chaos actuellement, on a la Corne de l'Afrique qui est dans une situation de crise politique et d'insécurité totale. Et puis d'autres situations comme le Kosovo. Je rappelle que la France a considéré que c'était un pays sûr récemment, ainsi que l'Albanie. Pour l'instant, ça va être très difficile maintenant pour les Kosovars d'être reconnus comme réfugiés, mais enfin, on en reparlera. Et beaucoup d'autres gens qui viennent de façon plus isolée, mais de pays africains notamment, où ils ont le sentiment de ne plus pouvoir vivre. Alors, il y a eu un débat qui me paraît dangereux, qui a été introduit dans l'opinion publique, si j'ose dire, et dans les médias, qui me paraît un faux débat entre les migrants qui seraient les mauvais et les réfugiés qui seraient les bons. Très dangereux parce que d'une part, les réfugiés sont des migrants. Les migrants, c'est une définition internationale du migrant des Nations Unies. C'est quelqu'un qui est né dans un pays qui vit dans un autre pays que celui où il est né, même s'il a la nationalité. Si vous êtes français né au Maroc, vous vivez en France, vous êtes migrant. Cette définition donc inclut toutes les catégories, le regroupement familial, les étudiants, pour une durée supérieure à un an. Et puis également, bien sûr, les réfugiés. Donc les réfugiés sont des migrants, première chose. D'autre part, malgré toutes les crises, les inégalités, les situations qui peuvent nous indigner, qui existent dans le monde, il y a peu de migrants internationaux. 3,2% de la population mondiale, 240 millions de personnes. Et aujourd'hui, il y a autant de migrants à l'échelle mondiale qui vont vers le sud que de migrants qui vont vers le nord. Ça, c'est une situation complètement nouvelle, parce que pendant très longtemps, la migration sud-nord était la plus importante. Aujourd'hui, si on additionne les gens qui vont du sud au nord et du nord au nord, on a 120 millions de personnes, et c'est ce même chiffre de 120 millions qui concerne les migrations sud-sud, où il y a beaucoup de réfugiés et de déplacés environnementaux, et les migrations nord-sud qui se développent pour des raisons diverses, seigneurs au soleil, mais aussi la crise économique qui a amené un certain nombre de gens du nord, notamment des Européens, à aller vers le sud. Donc on est dans ce contexte le débat migrants-réfugiés a pris une tournure dangereuse, parce que ça voudrait dire que certains sont, désirables pour les pays d'accueil, notamment les Syriens. Alors pourquoi les Syriens? Parce que la situation a duré très longtemps, parce qu'ils sont pris en tenaille entre d'un côté le régime d'Al-Assad et de l'autre côté l'extrémisme islamiste, mais aussi parce que la Syrie, notamment avec la France, a des liens anciens. On a eu un protectorat sur la Syrie à partir de 1920 et une tradition depuis cette période. La Syrie, c'est une partie de la Turquie, il ne faut pas l'oublier, de tradition de langue française dans certaines villes parmi les élites cultivées. Il y a une petite minorité de chrétiens d'Orient, etc. Donc tout ça les rend sympathiques auprès de certaines franges de la population, et puis ils ont souffert énormément, ce seraient les bons réfugiés. En revanche, les gens qui viennent d'Afrique seraient les mauvais réfugiés, des migrants, c'est-à-dire des faux réfugiés. Il y a toujours l'idée que c'est des tricheurs. Ce sont des gens qui quittent à la fois des situations de crise politique souvent graves, mais aussi de crise économique, de crise sanitaire, de crise parfois environnementale, etc. Et c'est ce qu'on appelle parmi les chercheurs les flux mixtes. C'est-à-dire des gens qui sont à la fois fondés individuellement, dans un certain nombre de cas, à demander l'asile, mais aussi qui viennent pour chercher du travail parce que chez eux, il n'y a pas d'espoir. Donc ça, c'est un... dans ce faux débat, il y a aussi une classification un peu ethnique qui se met culturelle. C'est-à-dire, d'un côté, on a les Arabes, les Syriens, qui sont des gens bien qualifiés, etc. Puis de l'autre, il y a les Africains qui sont supposés être moins qualifiés supposés donc non désirables pour toute une série de raisons, et notamment des raisons de discrimination ordinaire. Donc, débat dangereux. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que cette crise actuelle qui a atteint un pic, si j'ose dire, elle est ancienne. Ce n'est pas hier, c'est avant-hier et bien avant qu'il y a une poursuite des flux vers l'Europe. Il ne faut pas oublier, on a eu quand même 29 000, et même si on compte cet été, 30 000 morts en Méditerranée de 2000 à 2015. 30 000 morts aux portes de l'Europe. Identifiés, ça veut dire qu'il y a tous ceux qu'on n'a pas retrouvés, certains disent trois fois plus peut-être. Hein. Et on a à peu près 40 000 morts en Méditerranée identifiés, comptés depuis les années 90. Donc aux portes de l'Europe, c'est une hécatombe. La Méditerranée, j'ai un livre qui va bientôt sortir là-dessus, c'est un vaste cimetière. Hein. Je ne dirais pas un cimetière marin pour ne pas faire de mauvais jeu de mots, mais c'est un vaste cimetière. Et c'est le résultat d'une politique dissuasive, répressive, qui a été menée par l'Union européenne et par les États de l'Europe depuis 1990. Le tournant sécuritaire de la politique européenne, c'est 1990. Et on a instrumentalisé l'asile avec la notion de pays sûr, de pays tiers sûr, de demande manifestement infondée, etc. au profit de cette politique de fermeture. Et le tournant, moi je dirais pas, c'est pas la crise actuelle le tournant. Le tournant, c'est la crise de la dissuasion. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience un peu diffuse que finalement, additionner tous ces instruments de contrôle, militarisés, Frontex, les barrières construites par des entreprises qui travaillent pour l'armée, etc., aux portes de l'Europe, finalement n'ont pas dissuadé les gens de partir. Ça, c'est très intéressant comme enseignement. Après 25 ans de dissuasion, on s'est aperçu que ce n'était pas la peine d'accueillir le plus mal possible les gens. Ils viennent quand même, et donc cette stratégie a échoué. C'est l'échec de la stratégie de dissuasion. Donc ça, c'est, à mon avis, un acquis, si j'ose dire, de 25 ans de politique de fermeture des frontières. Un autre élément également sur lequel on peut réfléchir dans la situation actuelle, c'est que la situation n'est pas si nouvelle que ça. 625 000 demandes d'asile, mais on a eu 500 000 demandes d'asile en Europe au lendemain de la chute du mur de Berlin. C'est-à-dire qu'on a eu, et l'Allemagne à l'époque, comme aujourd'hui d'ailleurs, l'Allemagne avait accueilli en 1992, donc 500 000 demandes d'asile vers l'Europe, 432 000 demandes d'asile, pendant que la France en avait accueilli 25 000, le Royaume-Uni 25 000, et les autres pays, c'était assez négligeable. Donc en fait, C'est pas nouveau, et on a eu des périodes où on était peut-être plus généreux, si j'ose dire, en la matière, même si les années 90 étaient quand même déjà assez sévères. On a eu les boat people, à l'époque, il y a eu un mouvement de solidarité, même s'il y avait quand même quelques réticences, il y avait un mouvement de solidarité. Quand on a accueilli, alors ça c'était plutôt pour des gens qui disaient il faut donner une bonne image de l'Occident contre le communisme dans la région, mais on a eu aussi à l'opposé un accueil très favorable des Chiliens, notamment dans les courants de la gauche en France et ailleurs. Les Chiliens ont été bien accueillis dans un élan de solidarité. Donc toute cette période-là a été un petit peu oubliée. Et depuis les années 90, on s'est enfermé dans une sorte de prêt-à-penser qui a été imposé par les scores du Front National, par les sondages d'opinion et par les politiques migratoires, d'immigration et d'asile, qui se sont, pas seulement en France, mais dans beaucoup de pays européens, inspirés de ce mouvement xénophobe qui s'installe en Europe. Donc, on est dans ce contexte aujourd'hui. Et il y a eu quand même quelques lignes de fracture dans cette approche ultra-sécuritaire. Il ne faut pas oublier, j'ai passé quelques mois l'année dernière à enseigner en Italie, Mare Nostrum, j'étais pendant la période de Mare Nostrum. Mare Nostrum, c'est une réponse du gouvernement italien constatant l'absence de solidarité des pays européens, du Nord surtout, ou de l'Est, ou du Centre, à l'égard de ce qui se passait en Méditerranée. On a eu des milliers de morts dont je vous parlais, mais notamment autour des îles de la Méditerranée. Lampedusa, il y en a dont on parle moins. On parle beaucoup de Lesbos, aujourd'hui la Grèce, et notamment le nord de la Grèce comme point de passage, mais on a eu aussi d'autres points. On a eu, bien sûr, cette fois-ci dans l'Atlantique, les îles Canaries, qui ont été particulièrement meurtrières. Auparavant, on a eu Gibraltar, Malte également, Chypre. Et j'ai quelques étudiants qui ont fait des travaux sur ces îles, et il y a quelques très beaux films qui ont été faits aussi là-dessus. Ils sont pris en tenaille, les habitants de ces îles. Parce que d'une part, ils vivent du tourisme, donc il faut bien accueillir les touristes, d'apporter une bonne image de l'île, etc. D'autre côté, ils reçoivent des sans-papiers. Ils ont l'habitude, surtout si ce sont des pêcheurs, d'être solidaires avec les gens qui sont en perdition en mer. Certains ont été condamnés pour aide aux passagers réguliers, notamment en Sicile et notamment à Lampedusa, pour avoir secouru des sans-papiers en perdition en mer. Donc on est dans une contradiction totale, et beaucoup de ces îles de la Méditerranée, Chypre notamment, Malte notamment, les îles siciliennes, beaucoup d'îles grecques, sont dans ce contexte-là. Et donc l'Italie, constatant qu'elle était abandonnée par l'Europe, a construit, si j'ose dire, l'opération Mare Nostrum après le naufrage de 364 morts en Méditerranée le 3 octobre 2013. Et je me souviens très bien de la date parce que c'était la date précisément d'un grand débat mondial sur le forum mondial migration et développement. On avait des quantités d'idées très généreuses qu'on est, je pense, presque tous à partager ici. De quoi parlait-on dans ce forum qui avait lieu pour une fois à New York? Habituellement, cette année, il a lieu à Istanbul. Chaque année, ça change de lieu dans le monde. Et donc, ce forum, c'était accompagner la mobilité, faire du droit de migrer un droit, un bien public mondial, essayer de faire apparaître les effets positifs de la migration dans le développement humain. Donc des quantités d'idées généreuses où il y avait des 3000 personnes, c'était colossal, notamment les pays d'accueil, les pays de départ, les associations, les ONG, les organisations internationales, les églises, les syndicats, les associations patronales, etc. Tous ceux qui ont un intérêt, disons, et, ou un engagement autour des questions migratoires. Donc on parlait de tout ça, et en même temps, résultat européen, 364 morts le jour de la réunion du forum. Donc l'Italie a décidé de faire son opération qui a duré un an, qui en un an a sauvé plus de personnes en mer que Frontex, et qui montrait déjà la fissure dans le principe d'une politique commune d'immigration et d'asile, déjà à l'époque entre le Nord et le Sud. C'est-à-dire on avait l'impression qu'un certain nombre de pays du Nord de l'Europe ou de l'Est étaient, se sentaient lointains par rapport à tout ce qui se passait en Méditerranée et qu'on laissait finalement se débrouiller des pays qui étaient considérés comme mauvais gestionnaires de leurs États ou de leurs fonds publics, mais en même temps qui secouraient l'essentiel des migrants. Deuxième ligne de fracture aujourd'hui qu'on a pu constater, alors déjà beaucoup d'hésitation. Au printemps dernier, il avait été annoncé par la Commission européenne des quotas pour les pays européens. Et à l'époque, on était autour de 40 000 personnes à accueillir pour l'Europe. La France devait en prendre 13 000, si ma mémoire est bonne. L'Italie, ça devait être 12 000, 17 000 pour l'Allemagne. Ça a été refusé comme d'un trait de crayon par les pays européens en disant « Mais au nom de quoi les institutions européennes viennent s'immiscer dans l'exercice de notre souveraineté ?» dans la détermination de l'asile, nous pratiquons déjà l'asile, nous ne voulons pas entendre parler de quotas, qui était la position, parce que je suis allée au forum, enfin au séminaire de La Rochelle, du Parti Socialiste il y a 3 semaines, hein, faut pas l'oublier. Donc on a eu un revirement à 180%, si j'ose dire, depuis ces deux dernières semaines, notamment avec la déclaration de Madame Merkel, la photo de cet enfant syrien mort sur la côte turque, 3 ans, donc là ça a ému l'opinion, et puis donc la décision de Angela Merkel d'annoncer l'accueil par l'Allemagne de 800 000 demandeurs d'asile pour l'année 2015, ce qui a bousculé. Je suis allée à Berlin cette semaine et on sentait, même s'il y a eu des mouvements bien sûr hostiles, surtout dans l'ancienne RDA, qu'il y avait quand même un mouvement d'accompagnement, une certaine fierté dans la société civile. J'étais dans Allophage, donc c'est une structure qui s'occupe beaucoup des échanges de jeunes, une solidarité, une fierté que l'Allemagne se mette au devant de cet accueil. Et une confiance aussi, une confiance de la population qui était là. Il y avait des jeunes, il y avait des associations, il y avait des enseignants, des gens de l'université, etc. Une certaine confiance dans la capacité à accueillir, surtout à l'échelon local, comme c'est beaucoup le cas en Allemagne, à l'échelon régional, ces nouveaux arrivants. Donc ça a ému sans doute d'autres pays européens. La France a voulu se mettre dans ce sillage, si j'ose dire, en disant qu'on allait accueillir donc 24 000 nouveaux arrivants. Et puis, on a vu une autre ligne de fracture, qui est une fracture Est-Ouest, Donc beaucoup de pays de l'Est qui ne sont pas habitués à avoir des migrants ni des réfugiés et qui ont l'extrême droite chez eux, comme la Hongrie, comme la Slovaquie, également même refus en Pologne, en Roumanie, d'accueillir de nouveaux arrivants. Et puis à l'ouest, quand même, les pays qui ne sont pas dans le système Schengen, comme le Royaume-Uni, l'Irlande, le Danemark. Donc là aussi, des lignes de fracture importantes en Europe. Donc là, on est loin de l'idéal européen de solidarité. La solidarité est extrêmement divisée en la matière. Mais en même temps, il y a un sentiment, Monsieur Juncker a annoncé de nouveaux chiffres de migrants, notamment réfugiés syriens, à accueillir. Et cette fois-ci, il va s'agir d'un mécanisme obligatoire. Donc là, le changement, c'est celui de l'acceptation d'un mécanisme qui devient obligatoire et permanent d'accueil de demandeurs d'asile. Il y aura sûrement beaucoup de, disons, de réticences, beaucoup de mouvements de protestation dans les courants de l'extrême droite, toute la droite extrême dans un certain nombre de pays. Mais on sent que le climat a changé et aujourd'hui, ça fait partie, des valeurs que l'Union européenne affiche à nouveau. Elle joue peut-être d'ailleurs sa solidarité et ses valeurs à travers cette attitude à l'égard des réfugiés. On va voir ce que sera la réalité, mais on est dans ce contexte-là. Autre élément également de réflexion pour notre sujet, est-ce qu'on peut appliquer, alors là on est dans un, enfin c'est un débat, mais pour ceux qui parmi vous sont des spécialistes du droit d'asile, je crois que ça mérite de le poser. On est en train, alors on dit que les Syriens vont avoir un statut rapidement octroyé de réfugiés, comme on l'a fait pour les Vietnamiens, comme on l'a fait pour les Chiliens. Est-ce qu'on peut réfléchir sur un asile qui sera examiné individuellement, mais qui sera quand même accordé de façon plutôt collective à une nationalité en fonction d'un contexte politique donné, alors que habituellement le droit d'asile le respecte l'idée qu'on examine chacun en fonction de sa persécution ou de sa crainte de persécution. Donc là, on est dans un questionnement intéressant, si j'ose dire, en termes d'application du droit d'asile. Et puis, autre type de questionnement qui me paraît également intéressant à voir sur le sujet, c'est la question de, finalement, les autres. Qu'est-ce qu'on va faire des autres ? Il ne faut pas oublier qu'en France et dans d'autres pays européens, on a des quantités de gens qui attendent le statut de réfugié, qui sont dans des situations de très grande précarité, et aucune réponse n'a été donnée pour l'instant pour cela. Est-ce qu'on va choisir les uns contre les autres pour montrer, quelque chose d'exceptionnel qu'on va afficher politiquement? Il y a une dimension d'affichage qui n'est pas complètement négligeable. Mais ce qui est intéressant, c'est que les États qui vont se ranger derrière la position de Mme Merkel, pour une fois, n'ont pas regardé les résultats des sondages. Et ça, c'est quand même très intéressant. Pendant très longtemps, la politique de l'asile, elle était comme la politique d'immigration, elle était commandée par les sondages. Et quand on donne le droit d'asile, on fait de la politique. Pas seulement en regardant les sondages, malheureusement, mais aussi en choisissant finalement quel signe on va donner dans le contexte international. Par exemple, si vous regardez un petit peu, vous êtes tous des spécialistes du sujet, mais il y a des pays avec lesquels on est très gentil, si j'ose dire, hein. C'est des pays qui sont soit nos voisins, avec lesquels on fait du commerce, avec lesquels on fait des affaires parfois. Et ne pas donner l'asile, c'est aussi ne pas chagriner un certain nombre de chefs d'État. Alors avec la Syrie, on n'en a rien à faire, si j'ose dire, mais avec d'autres pays avec lesquels il y a beaucoup de relations commerciales et des relations d'amitié pas toujours avouées entre chefs d'État européens et quelques autres régions du monde, là, on fait du cas par cas et on ne donne pas toujours l'asile pour ne pas dire « vous êtes un pays mal gouverné, vous produisez des quantités de demandeurs d'asile ». Ça, c'est un premier cas de figure. Deuxièmement, la grande difficulté en Europe, on rêve en Europe depuis très longtemps, ça a été énoncé dans les accords de Dublin 1, 1990, dans le pacte européen sur l'immigration et l'asile, qui n'est pas un traité, qui est un pacte, un accord simplement, 2008, faire une politique commune de l'asile. Est-il possible d'avoir une politique commune de l'asile en Europe quand on a une politique extérieure qui est quasiment illisible et une politique étrangère qui appartient à chacun des États de l'Union? Chacun des États de l'Union a sa politique étrangère et donc sa sensibilité à tel ou tel profil de demandeur d'asile, à tel ou tel conflit dans le monde. Et si on regarde un petit peu les réponses qu'ont eues dans les pays européens des profils semblables, par exemple, je prends un sujet complètement dehors, les Tamouls du Sri Lanka. Pour des raisons que j'ignore, parce que je ne suis pas du tout une spécialiste de la région, en France, on a été beaucoup plus généreux pour les Tamouls qu'en Allemagne, par exemple. Alors qu'en Allemagne, on a été plus généreux avec quelques autres régions du monde, et notamment la crise de l'ex-Yougoslavie, etc. Donc en fait, on a des sensibilités différentes à des divers conflits, soit pour ménager des relations qui existent depuis longtemps, soit parce qu'on a une analyse d'un contexte international qui est propre à tel pays et qui ne partage pas tel autre pays. Donc, difficile. C'est un effort qui persiste depuis longtemps. On a eu un bureau commun qui a été créé à Malte pour essayer de faire en sorte que, quel que soit le pays auquel il s'adresse, le demandeur d'asile ait les mêmes chances d'obtenir une réponse identique d'un pays européen à l'autre. On a vu que c'était complètement différent. Dans la crise algérienne de 1995, les Algériens, qui étaient souvent des gens que nous, on avait comme amis, qu'on connaissait, qui étaient des journalistes, des universitaires, etc., des militants, eh bien, ils n'avaient pas du tout la même réponse d'un pays européen à l'autre. Parce qu'en France, on a été très sévère. Souvent, on n'a pas donné d'ailleurs le statut de réfugié, on a donné ce qu'on appelait l'asile territorial, qui a été supprimé depuis. Pourquoi ? Parce qu'on s'est dit, si on commence à être généreux avec certains, on en aura beaucoup qui vont entrer. En revanche, ces mêmes gens, ils obtenaient l'asile de la Convention de Genève très facilement au Portugal, par exemple. Donc, il y a aussi toujours la peur de l'effet d'appel, qui est une peur d'ailleurs infondée, qui est partagée par beaucoup de pays européens, fait qu'on n'a pas les mêmes réponses d'un pays à l'autre. Donc il y a une tentative qui est amorcée. Il y aura bientôt une rencontre, un sommet européen là-dessus. Je pense, mais je ne peux pas prédire l'avenir, que les accords de Dublin 2, qui ont été d'ailleurs critiqués par Madame Merkel, qui sont un peu affaiblis dans la loi française sur l'asile de juin dernier, vont être remis en cause. C'est-à-dire le one stop, one shop ne fonctionne pas. Ça crée énormément d'effets pervers. Ça avait été décidé parce que on avait eu la crise yougoslave notamment, parce que certains pays européens, dont l'Allemagne, dont l'Autriche, avaient dit nous, on veut que les pays européens partagent le fardeau. Donc c'était pour lutter contre Dublin 1, c'est pour lutter contre ce qu'on appelle asylum shopping, les gens qui demandaient l'asile dans divers pays européens et qui regardaient s'ils avaient plus de chances d'obtenir l'asile dans un pays que dans un autre avec des demandes multiples. Donc ça, c'était supprimé avec 1990, Dublin 1. Dublin 2, 2003, one stop, one shop. C'est là, et on a tous les effets pervers qui se sont installés, notamment à Calais, avec cette situation. C'est là où vous avez demandé l'asile, vous avez mis le pied que vous devez être demandeur d'asile. Et on ruine souvent les projets des gens, parce qu'ils ont de la famille, ils ont des possibilités de s'insérer dans tel ou tel pays, pas dans tel autre, etc. C'est pourquoi on a des phénomènes d'engorgement, comme à Athènes, il y a un film qui a été fait là-dessus aussi, parce qu'ils veulent, eux, ne pas faire une demande en Grèce où on n'a même pas 1% de gens qui obtiennent l'asile, mais ils ont l'idée, parce que leur famille ou des proches sont en Suède, par exemple, ou en Allemagne, d'aller en Allemagne. Donc ça, je pense que ça va être un petit peu, remis en cause et peut-être complètement abandonné quand on voit l'ensemble des effets pervers de cette situation, y compris les gens qu'on renvoie vers le premier pays où ils ont mis le pied en Europe pour qu'on les oblige à demander l'asile dans ce pays, ce qu'on appelle les gens dublinés. Donc on s'oriente vers peut-être une meilleure appréciation du côté des pouvoirs publics, mais aussi du côté du demandeur, du lieu qui va sans doute faire grincer les dents, parce qu'il y a des pays qui ont très peu de demandeurs d'asile, qui ne veulent pas accepter la disposition Juncker, et qui diront ben, « nous, on n'a rien à voir avec tout ça, et on ne veut pas en entendre parler », c'est ce qui se dessine pour l'instant, par exemple en Hongrie et dans quelques pays voisins. Donc le contexte est assez difficile à prévoir. Ce qu'on peut prévoir simplement, c'est que cet afflux de demandeurs d'asile, il va se poursuivre, de même que l'afflux des migrations. Il va se poursuivre parce qu'on est dans des conflits qui durent, qui ne sont pas nécessairement des conflits définitifs, comme du temps de la guerre froide, où on pensait que les gens, on leur donnait le statut de réfugié et ils ne pouvaient pas rentrer dans leur pays d'origine parce qu'on pensait que c'était définitif. Bon. Depuis, on a assoupli les règles et on a donc la possibilité de repartir chez soi. On peut créer une clause de cessation si le pays a changé. Parfois, on la donne un peu vite d'ailleurs, mais enfin bref. En principe, on ne reconduit pas la clause de non-refoulement, ce qui n'est pas toujours le cas, mais en principe, on ne reconduit pas les gens qui viennent de situations de crise, même si on ne leur donne pas l'asile. Donc, les choses vont bouger un petit peu du côté de l'accueil, mais pas beaucoup du côté des situations de départ. Pourquoi est-ce que les gens partent ? Parce que c'est devenu invivable chez eux. Tous ne sont pas individuellement persécutés, mais la situation est devenue invivable. C'est-à-dire, si on est en Syrie aujourd'hui, on ne sait pas combien de temps va durer la crise. Ça peut durer encore très longtemps. L'attitude des États-Unis à l'égard du gouvernement syrien fait qu'on considère que maintenant, c'est éventuellement un instrument pour lutter contre Daesh et l'extrémisme radical. Et donc, ça peut durer, par exemple. Si on prend l'Irak, compte tenu des forces qui sont regroupées, qui étaient l'ancienne administration, en réalité, du gouvernement syrien, du côté sunnite, ça peut durer très longtemps. Ils sont très bien équipés, ils ont de l'argent, ils ont du pétrole, etc. Ça peut durer très longtemps. Donc, on a une très grande incertitude sur les conflits. De même dans la Corne de l'Afrique, c'est une affaire qui dure depuis, pas hier, avant-hier et bien avant. Il y a une instabilité chronique croisée avec une pauvreté également très importante, et donc ça peut durer très longtemps. Donc des conflits qui durent et qui vont amener des nouveaux demandeurs d'asile ou des fameux flux mixtes, des gens qui viennent parce que chez eux, il n'y a aucun espoir. Hein. De plus en plus, on trouve ça. Les gens qui disent, bien sûr, chez moi, ce n'était pas si catastrophique au quotidien, je n'étais pas persécuté, mais la situation est telle que chez moi, il n'y a aucun espoir de changer de vie. C'est ça le droit de migrer aussi, hein, qui est un peu évoqué par des organisations internationales, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, le droit d'asile bien sûr, la Convention des Nations Unies pour les droits de tous les travailleurs migrants et de leurs familles, qui énonce les droits minimums qui sont accordés dans le monde aujourd'hui aux migrants. Et pour l'instant, cette convention qui a été proposée à la signature depuis 1990, elle n'a été signée que par 48 pays. Ça veut dire que l'écrasante majorité des États de la planète n'ont pas voulu s'engager sur la Convention des droits des travailleurs migrants et de leurs familles, qui n'énonce rien de nouveau, qui ne fait que reprendre des droits existants, de peur de se trouver engagés, notamment sur les droits des sans-papiers. C'est le cas de tous les pays européens qui ne sont pas signataires. Tous les signataires de cette convention sont des pays du Sud. Aucun pays du Nord n'a signé la Convention de 90. Et pourtant, elle fait partie du socle du droit de migrer qui commence à émerger comme revendication sur la scène mondiale à travers les forums mondiaux migration et développement, les forums sociaux également et quelques autres instances qui prônent le droit à la mobilité et l'idée que la mobilité est un bien public mondial. On se porterait beaucoup mieux si on n'était pas arc-bouté sur la question de la politique de dissuasion, de contrôle des frontières, et il y a des quantités de régions du monde qui économiquement s'en sortiraient mieux si les gens pouvaient bouger, aller, venir. Et les enseignements des migrations qu'on a eues en Europe depuis 25 ans, c'est que ceux à qui on a donné la liberté de circulation circulent. Aujourd'hui, 40% de la mobilité des migrations en Europe, c'est des gens de l'Est, en Ouest, mais aussi des nouvelles figures qui se sont mises en mobilité, comme les étudiants, par exemple. La mobilité dans quantité d'endroits de la planète serait un instrument de développement humain, mais aussi économique considérable. Donc on bloque pour des raisons sécuritaires toute une série d'opportunités pour les personnes. Également dans ce contexte-là, dont fait partie d'ailleurs la frilosité à l'égard des migrations. Il ne faut pas oublier que si les migrations de travail étaient plus ouvertes, il y aurait moins de gens qui tentent l'asile parce qu'ils n'ont pas d'autres possibilités d'entrer sans papier dans un pays d'accueil et de se constituer demandeur d'asile. Par exemple, les Portugais d'avant 1974, sa première nationalité en France, encore aujourd'hui, j'avais fait des enquêtes auprès de ces Portugais, et en fait, les Portugais ne demandaient pas l'asile. Parce qu'ils arrivaient sans papier, le Salazar ne leur donnait pas de passeport, parce qu'ils n'avaient pas fait de service militaire, et donc, en fait, ils savaient qu'ils se feraient régulariser rapidement. Donc, ils n'avaient pas éprouvé le besoin de se constituer demandeur d'asile. Si l'immigration de travail était plus ouverte, à plus de catégories de gens que c'est le cas aujourd'hui, on aurait moins de flux mixtes, précisément les fameux tricheurs supposés qu'on désigne aujourd'hui par migrants, c'est-à-dire les mauvais immigrés. D'autre part, comme perspective, on a une directive européenne de 2001 sur la protection temporaire qui avait été faite pour les gens de l'ex-Yougoslavie. On pourrait tout à fait appliquer, ce qui protégerait beaucoup plus de gens qui sont sans aucune protection aujourd'hui, les personnes qui arrivent que ce qu'on fait aujourd'hui, puisqu'il y a des quantités de gens qui n'ont aucune solution après des années de procédure sur leur demande d'asile. Protection temporaire, on ne l'applique pas en général. Hein. La directive de 2001 sur la protection temporaire a presque été oubliée, à tel point que Nicolas Sarkozy, dans un discours récent, disait qu'il fallait inventer une catégorie des réfugiés de guerre. J'imagine que comme ministre de l'Intérieur, il n'ignore pas qu'existe la protection temporaire en vertu de la directive européenne de 2001. Mais on n'en entend plus parler aujourd'hui. Donc ouvrir un peu plus les frontières à plus de catégories de gens qui éviteraient que tous ceux qui veulent se faire protéger utilisent l'asile. Deuxièmement, appliquer la directive de 2001 sur la protection temporaire. Ça, c'est un deuxième élément qui me paraît important. Parmi les autres situations, signer bien sûr la Convention de 90 sur les droits de tous les travailleurs migrants et de leurs familles, qui permet de protéger de façon minimale les sans-papiers, dont font partie beaucoup de déboutés du droit d'asile. Également, avoir une solidarité européenne en la matière. Construire vraiment un projet européen autour de l'asile, ce qui me paraît indispensable aujourd'hui dans le climat très frileux et même très xénophobe qui existe dans beaucoup de pays européens, et mépriser les sondages. Je pense qu'il est temps d'avoir une politique d'annonce, c'est-à-dire en disant, peut-être les sondages disent ça, les sondages bougent d'ailleurs. J'ai vu que les sondages, notamment en France, étaient plus favorables. Donc il ne faut pas aller derrière ces frilosités, mais plutôt les devancer par une politique plus audacieuse en la matière. Donc voilà quelques éléments de réflexion, si j'ose dire. Il y en a beaucoup d'autres là-dessus que je pourrais indiquer, mais je pense que on est quand même à un tournant. Enfin, moi, je suis plutôt, optimiste en la matière, mais je pense qu'on est à un tournant. Il ne faut pas le rater. Il ne faut pas le rater. Je pense que vous tous qui êtes là êtes tout à fait engagés dans différentes causes pour essayer de faire en sorte que celle des réfugiés soit prise en charge, notamment du côté de l'accueil, de façon très efficace. Donc il ne faut pas rater ce tournant-là parce qu'on joue vraiment les valeurs de l'Europe. Si on le rate, c'est grave. Parce que ça veut dire que les courants les plus xénophobes, les plus sécuritaires, qui ont présidé à la politique d'immigration depuis 25 ans, auront gagné. Et ça, c'est très très grave. On est beaucoup parmi les universitaires à dire qu'il faut plus ouvrir les frontières, qu'il faut abandonner la stratégie de dissuasion et de répression qui n'a rien donné, qui n'a donné que des effets pervers et qui n'a pas dissuadé les gens de venir. Il faut abandonner l'idée qu'il faut faire la guerre aux migrations. La guerre aux migrations. Aujourd'hui, c'est des entreprises qui travaillent pour l'armée, qui construisent les murs. On ne peut pas l'oublier, qui ont construit le mur de Ceuta, qui ont construit toute une série de murs entre les États-Unis et le Mexique, etc. Là, je crois qu'il y a une réflexion. Gérer l'immigration, ce n'est pas faire la guerre. L'immigration, ce n'est pas prioritairement une question sécuritaire. Alors que dans la gestion européenne, c'est dans le premier pilier, c'est-à-dire affaires intérieures et sécurité. Donc on traite l'immigration comme on traite des questions de sécurité, des questions militaires. Il faut enfin sortir de cette approche et considérer que la question d'immigration, c'est une question de droits de l'homme, c'est une question de vivre ensemble, c'est une question d'application du droit. On a toute une série de textes pour garantir une série de droits. Il faut les appliquer, ce qui n'est pas toujours le cas. Il ne faut pas considérer que l'immigration, c'est le défi. Ce n'est pas un défi, l'immigration, c'est une situation, une réalité à laquelle on est confronté et à laquelle il faut répondre au mieux. Mais l'idée que c'est un défi et qu'on va y perdre les valeurs de l'Europe, on va les perdre au contraire si on ne répond pas à la perche qui nous est donnée aujourd'hui d'avoir une politique d'accueil face à cette situation de crise exceptionnelle des demandeurs d'asile vers l'Europe et des flux mixtes, si j'ose dire, puisque effectivement on n'avait jamais eu depuis ces 25 dernières années un tel afflux. Donc là je crois que c'est tout à fait intéressant d'observer ce qui se passe et d'essayer d'accompagner, puisqu'il y a une fenêtre d'opportunité, comme disent certains, accompagner cet élan de solidarité.